Bonjour, le Centre d'Histoire du Travail organise du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre un temps fort autour de l'œuvre de l'écrivain et réalisateur Gérard Mordillat. Ce programme s'inscrit dans le cadre des 30 ans du CHT et est enrichi par une exposition « Fragments d'histoire sociale, la Loire-Atlantique en lutte », exposition qui se tient à la Maison des Hommes et des Techniques, et par une série de reportages que nous allons diffuser toute la semaine. Pour le premier numéro de cette série « Un peu d'histoire » en compagnie de Yannick Guin, le premier président du CDMOT, le Centre de Documentation du Mouvement Ouvrier et du Travail, qui deviendra en 1994 le CHT, Centre d'Histoire du Travail. Début de l'aventure dans les années 70 ?
Les années 60 même, hein, parce que je prends mon inscription, ma première inscription, à la rentrée de 1962. Et que, effectivement, assez rapidement, je vois le hiatus qu'il y a entre un jeune homme venant de Saint-Nazaire avec la vie ouvrière dans tout son entourage et la vie estudiantine nantaise à l'époque où c'est encore ce qu'on peut appeler la bourgeoisie. Même si, effectivement, la montée de certaines catégories modestes va se produire dans les années 60 et avec un effet en 68. Hein, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent 68 comme un mouvement de petits bourgeois, de pré-bobos, en quelque sorte, pas du tout. Moi, tous mes copains, ils venaient souvent de l'extérieur de Nantes et ils venaient de milieux souvent très modestes. De milieux paysans, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes camarades en 68 qui étaient de ces milieux-là. Et donc, dans les années 60, il y a un remue-ménage important dans les milieux estudiantins, contre l'autoritarisme du gaullisme, contre le mandarinat et l'autoritarisme dans les facultés, contre les vieilles positions de la société, par exemple en matière de sexualité entre les garçons et les filles, il y a interdiction d'aller se voir dans les cités universitaires, etc. Donc il y a une montée anti-autoritaire qui essaie de s'appuyer sur le mouvement social. Je pense par exemple en 1967 à la grève de Saint-Nazaire, des mensuels de Saint-Nazaire, qui a été suivie très attentivement par les étudiants de l'UNEF, auquel j'appartenais, et l'UNEF étant elle-même traversée par des courants multiples. Il y a les courants, les chrétiens de gauche, comme on disait, mais aussi les jeunes communistes, les jeunes socialistes, et puis les jeunes libertaires, qui vont beaucoup marquer, effectivement, la vie nantaise. En tout cas, il y a cet appui sur le mouvement social, et chez certains, des relations déjà établies avec les syndicats ouvriers. Donc, il se passe quelque chose à Nantes à ce moment-là. En ce qui me concerne, pour puiser l'une des racines, la deuxième racine, je vais en parler très rapidement, immédiatement, mais la première racine, c'est que ça a été le hiatus entre ce que j'entendais dans mon milieu nazérien et puis ce que j'apprenais et ce que j'entendais dans le milieu universitaire. Et j'étais aussi bien attaché à mon milieu d'origine et à ses valeurs que j'ai été ébloui par la qualité d'un certain nombre de professeurs que j'ai pu avoir. Mais je voyais bien l'écart qui existait entre les analyses qui étaient faites par les uns, les professeurs, et les analyses qui pouvaient être faites par le milieu que moi j'ai fréquenté, et en particulier des syndicalistes, plutôt des syndicalistes chrétiens d'ailleurs, c'était la CFTC à l'époque.
C'est bien de préciser cet écart.
L'écart, il est le suivant. C'est-à-dire, dans le milieu revendicatif ouvrier, évidemment, on va tout de suite à la dénonciation du capitaliste, etc. En milieu universitaire, on est plus attentif, je dirais, à la complexité. Alors, comment relier, finalement, le milieu ouvrier qui se trouve toujours dans une difficulté dans la formation de ses cadres? Ça, c'est une chose qui m'a toujours frappé. J'avais lu quelque chose qui disait « la bourgeoisie, elle a des appareils de reproduction de ses valeurs et de ses savoirs. C'était l'université, finalement. Tandis que le mouvement ouvrier, c'est très difficile de refaire sans cesse des cadres du mouvement ouvrier. Alors, les syndicalistes ont leurs propres écoles à l'intérieur de leurs syndicats, etc. Mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Il faut refaire des parcours. Alors, je parle pas du 19e siècle où tous les 20 ans, les cadres ouvriers étaient fusillés, hein. Mais je parle là du 20e siècle où ça restait quand même une chose difficile. Et c'est cette chose-là qui m'a beaucoup frappé immédiatement, hein. Au fond, la bourgeoisie, elle a tout ce qu'il faut, immédiatement, elle a mis l'argent, les structures, etc., pour se reproduire elle-même. Et donc, elle nous demandait à nous, enfants de ces milieux-là, de rentrer dans le moule de ses propres formations. Tandis que le milieu ouvrier, il faut tout recommencer à chaque fois. Il faut prendre un jeune homme qui est apprenti ou qui veut travailler, il a 17, 18 ans, et il faut qu'il recommence tout un parcours d'analyse, de compréhension, pour avoir l'armement intellectuel pour pouvoir lutter. Et c'est de là, finalement, mon idée du centre de documentation du mouvement ouvrier du travail, c'est de faire un lieu qui soit un élément d'université populaire, en quelque sorte, pour la formation des militants ouvriers, pour qu'ils aient rapidement accès à la conscience de leur histoire. Ça, c'est la première idée.
Jean Rollet, président de la Maison des Hommes et des Techniques.
Accueillir cette exposition ici, aujourd'hui, pour nous, c'est très important. Hein, c'est très important parce que c'est une rétrospective un petit peu sur les luttes ouvrières de la région et que nous, on tient plus que jamais, je dirais aujourd'hui, à affirmer cette identité et que je souhaite le plus commune possible, d'ailleurs avec le Centre d'Histoire du Travail, hein, autour du monde du travail, donc dans ce lieu, sur ce site de la Prairie au Duc. Et effectivement, par rapport à toutes les évolutions de ce lieu, bon, on ne va pas en palabrer là-dessus ce soir, quelquefois, je dis, moi, j'ai l'impression qu'on revit un petit peu les bulldozers de la fin des chantiers. Hein, c'est-à-dire que le sens du lieu est quand même très bousculé aujourd'hui. On dérive peut-être un peu trop vers le parc d'attractions, vers un tas de trucs comme ça. Et donc, simplement, je lance un peu ce message ce soir. Centre d'histoire du travail, Maison des Hommes et des Techniques, Association de la Navale, CID à côté. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'ensemble, on continue à être un petit peu les porteurs du sens de ce territoire-là. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour ce soir et je vous souhaite une bonne soirée.
La deuxième, évidemment, c'est que, comme j'ai entrepris ma thèse, évidemment, sur l'histoire du mouvement ouvrier dans la région, très vite, je me suis aperçu de la nécessité d'avoir des lieux dans lesquels, justement, la classe ouvrière, si on peut dire, mais aussi le mouvement paysan, ça viendra un petit peu plus tard, le mouvement paysan puisse avoir ses sources. S'il n'y a pas de conscience historique, il ne peut pas y avoir de conscience de classe. C'est impossible. On est appuyé sur l'histoire, c'est-à-dire sur les mécanismes de domination dans l'histoire. Donc c'est ça l'idée. Quand je fais ma thèse, moi je travaille dans les archives publiques, un peu dans les archives ouvrières, parce que la CGT m'avait ouvert son armoire, je me souviens, une armoire avec des dossiers non classés, d'ailleurs fort intéressants. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on ait des lieux dans lesquels le mouvement ouvrier trouve les éléments pour bâtir sa propre conscience. Donc c'est ces deux éléments qui m'ont amené finalement à cette idée. Alors j'ai passé ma thèse en 1972, et donc entre 1972 et 1978, il y a toute une période de maturation où je travaille avec des milieux syndicalistes à la fois locaux mais aussi européens, parce que déjà on parle de la crise de la navale et je me suis efforcé de réunir des syndicalistes italiens, suédois, anglais, ils sont venus ici avec des amis pour dire, vous voyez comme c'était prémonitoire et en même temps désespérant, dans la navale, si on ne s'unit pas entre les chantiers, on sera mort dans peu de temps. C'était ça l'idée. Donc il valait mieux entreprendre une lutte européenne des ouvriers de la navale en Europe pour essayer de contrecarrer évidemment les logiques qui déjà étaient perceptibles. Donc ça c'est dans ces années-là. Et je travaille d'abord, je suis nommé maître assistant en 1974. Et donc à partir de là, je me dis il faut persuader tout autour de moi qu'il faut s'employer à ça. À construire un centre de documentation.
Christophe Patillon.
Présenter l'expo, c'est un peu compliqué. Alors il y a des dates qui vont sembler évidentes pour beaucoup. 68, le 68 nantais, Yannick qui a consacré un livre chez Maspero. 55, ça marquait une génération de métallurgistes, Jojo est là, il y en a bien d'autres. 67 pour les mensuels, 1933, la marche de la faim, etc. Je pourrais grainer comme ça des dates qui sont évidentes. D'autres, le sont beaucoup moins, mais on avait envie de ressortir certaines thématiques. On a choisi de façon arbitraire, par exemple, 1901, c'est la question de la santé. C'était donc, bien sûr, avant la sécurité sociale. 1896, j'ai pas mes lunettes, je vois absolument rien. Je crois que ça concerne la question des femmes et du travail. Et là, ça nous semblait aussi important de montrer qu'à la fois le mouvement ouvrier au 19e siècle, au début du 20e, il pouvait avoir un discours radical, parler d'émancipation, d'égalité, etc. Mais souvent, il ajoutait que quand même, au lendemain de la révolution sociale, la femme retrouverait le doux foyer parce que là était sa place. Donc il y avait un reste de proudhonisme aussi dans ce mouvement ouvrier français-là.
Évidemment, j'ai parlé autour de moi à quelques collègues universitaires. Et le déclenchement s'est produit au tout début de l'année 1979, lorsque j'ai parlé d'abord avec un jeune historien que j'avais comme étudiant, qui était Bernard Azot, qui a écrit de fort belles choses sur l'histoire de Trignac. Avec Bernard, qui était en liaison avec les socialistes, je n'étais pas au Parti Socialiste à l'époque, en particulier avec Jean-Marc Ayrault à Saint-Herblain, élu en 77, donc vous voyez les dates, et puis avec la municipalité de Saint-Nazaire. Et j'ai fait ces rencontres-là à ce moment-là, avec Gérard Mauduit à Saint-Nazaire, qui est toujours adjoint au maire, et puis Jean-Marc Ayrault, donc je les rencontre à ce moment-là pour commencer à esquisser l'idée d'un centre de documentation. Et puis, on commence à avoir, nous sommes toujours en 79, des rendez-vous avec les syndicats. Je rencontre également, j'allais oublier, Robert Poujade, qui est maire d'Orvault à l'époque, c'est tous des socialistes. Et donc les choses sont en discussion, on rencontre les uns les autres, ils disent « Ah oui, c'est intéressant, on pourra t'aider, etc. » Mais voilà l'ambiance de l'année 79. Il y a un gros déclencheur l'année suivante, en 1980, c'est ma rencontre avec François Lemadec, qui est ici dans la municipalité d'Alain Chénard. Alain Chénard a été élu en 77, de 77 à 83, donc nous sommes la période où François est chargé des relations avec les syndicats et avec le champ associatif. François avait été un leader syndicaliste à Sud Aviation à l'époque. Il a d'ailleurs sorti un excellent petit livre sur ce sujet. Et avec François, tout de suite, on s'est entendu, quoi. On a parlé le même langage. Moi, je savais que je pouvais rien faire sans les gens qui avaient un pouvoir, en quelque sorte, et de l'argent. Moi, je n'avais pas d'argent. Et donc, pouvoir aussi matériel, des locaux, un minimum de moyens, un peu d'argent pour l'emploi, ces choses-là. Et François sentait bien qu'il lui fallait quelqu'un qui, en quelque sorte, connaisse toute l'histoire, parle un peu de tous ces mouvements, etc. Donc, on s'est complété, je dois dire, merveilleusement. Et puis, c'était le départ d'une très grande amitié, un très grand compagnonnage, une camaraderie forte.
Alors si je devais choisir deux dates, en fait, je ne vais pas m'embêter, je prendrai la première. Et la première, c'est 1833. C'est une évidence parce que c'est le plus vieux document qui reste au Centre d'Histoire du Travail et c'est un texte magnifique et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous visite, et bien souvent ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui envient la ville de Nantes de disposer d'un Centre d'Histoire du Travail alors qu'eux, que ce soit à Toulouse, à Brest, à Limoges, ils n'ont pas ce type de structure, je leur fais la récitation de ce texte. Et moi je résiste pas à l'envie de vous dire quelques phrases. Ce sont ces typographes, ces ouvriers qualifiés, hein, l'élite de la classe ouvrière, et ils essaient de convaincre les patrons de les laisser s'organiser en société de secours mutuel. Et alors ils sont obligés de passer sous les fourches codines, hein, puisque le droit d'organisation n'existe pas à l'époque. Et donc ils écrivent ceci: « Nous n'envions pas vos fortunes, vos plaisirs, vos plats surchargés de mets exquis, non, mais un salaire capable de nous procurer un lit modeste, un gîte à l'abri des vicissitudes du temps, du pain pour nos vieux jours, après avoir passé notre jeunesse à remplir vos coffres. » Voilà. Donc à la fois on fait une sorte d'amende honorable, etc. On va à Canossa, mais de l'autre côté on place une petite pique quand même pour ne pas mettre sa fierté dans un mouchoir. Donc cette date me semble importante. C'est le plus vieux document, c'est l'un des plus intéressants aussi, et puis c'est l'amorce, c'est les débuts du mouvement ouvrier dans la région nantaise.
On a commencé à élaborer des statuts. Et ces statuts ont été mis au point avec les syndicats au mois de juin 1980. J'ai retrouvé tout ça dans mes carnets de rencontres. Au mois de juin. Et je crois que même...
Parce que vous avez des archives.
Pas beaucoup, parce que j'en ai donné quelques-unes au centre. Mais dès que je vais avoir un peu de temps, que je vais être en retraite, je vais revoir un peu mes plannings, etc. Mais ce que je vous dis, je l'ai contrôlé. Donc les statuts sont mis au point avec les syndicats en juin 1980. Et les syndicats, c'est d'abord la FEN, FO et la CFDT. À ce moment-là, la CGT est pas dans le coup, pour l'instant. Elle est méfiante. Elle est méfiante pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a elle-même mis sur pied un centre de documentation. Elle a ses archives à Paris. Et donc, elle dit, mais moi, nous, on va déposer nos archives là-bas. On voit pas très bien pourquoi on ferait quelque chose ici. Alors, il y a les vieilles méfiances pour l'instant. Mais la CGT va nous rejoindre, évidemment. Et on a prévu des statuts avec François, qui sont des statuts vraiment très respectueux et consensuels. C'est-à-dire, il faut respecter les organisations, leur histoire.
Yannick Guin, l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail, est l'invité du magazine.
Il faut respecter les organisations, leur histoire. C'est pas nous qui sommes responsables de leur histoire, hein. Ce sont elles-mêmes qui ont fait leur histoire. Et donc, s'il y a des divergences, s'il y a des séparations, des divisions, c'est qu'il y a bien des raisons. Donc, il faut absolument respecter et ne pas, comment dire, les trahir dès le départ, c'est-à-dire en faisant un usage de leurs archives qui serait contraire à ce qu'ils souhaitent. Donc ça a été vraiment une préoccupation. Et en même temps, c'est un projet militant. Ce n'est pas un projet d'universitaire qui peut-être aurait fait un centre d'archives où on aurait un peu fossilisé les archives. Le projet est militant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour en faire un lieu où on travaille sur la conscience historique. Un lieu à la fois sur le passé, sur le présent, il faut ramasser les archives, et sur les réflexions d'avenir. Je vous ai dit, par exemple, le travail effectué avec les syndicalistes européens, c'est que il faut songer à l'avenir, où va le mouvement ouvrier par rapport à son passé, mais également par rapport aux défis que la modernité lui présentera. Et Dieu sait s'il y aura des défis considérables, justement, dans ces années 80-90, qui ne font que s'accentuer aujourd'hui, évidemment, avec une espèce d'offensive, une vraie offensive, que moi je date à 1976, d'ailleurs. Une offensive du libéralisme et donc du capitalisme mondial pour désagréger le mouvement ouvrier qui reposait sur les grandes entreprises fordistes. Et donc, on va casser le mode de production qui date des années 30 jusqu'à la fin des années 70. On va le casser, et ce faisant, on va casser les solidarités qui étaient induites dans ces grandes usines qu'on a connues aussi à Nantes. Donc, on va désagréger cette solidarité, ce sens du collectif le plus possible, le capitalisme libéral et financier peu à peu d'ailleurs, qui va prendre le pas même sur le capitalisme industriel. Et donc on va casser à tel point que dans ces dernières années on entendait « mais la classe ouvrière elle n'existe plus ». C'est-à-dire une espèce de désagrégation, mais qui, à mon sens, sont le fruit d'une lutte idéologique très intense de la part de l'adversaire. Donc il faut toujours maintenir les éléments qui permettent de résister, de toujours se forger des consciences, une pensée, une intelligence de l'histoire, une intelligence de la situation. Alors évidemment, en 1981, soudain, les choses changent. Avec l'élection de François Mitterrand, je veux dire, les choses sont posées avant 1981 avec des communes. Et notamment la commune de Nantes. Mais 1981 donne un élan.
dernier, bien c'est le dernier, vous avez pu remarquer, si vous avez fait le tour, que la date est énigmatique. Parce que oui, c'est ainsi, on travaille dans l'archive, on récolte du papier, des tracts et des documents, et cette histoire continue. Alors, l'histoire de l'humanité est peut-être celle de la lutte des classes, en tout cas, nous, on le pense un peu. Alors, on a voulu pointer dans ce dernier panneau, ce qu'a pu dire Yannick, hein, sur la brutalisation des rapports sociaux dans les entreprises, les gens qui perdent leur vie à la gagner, etc. Et ça nous semblait important en ce moment de pointer du doigt qu'en effet des luttes renaîtront, elles existent toujours, elles vont s'attaquer à la fois au capitalisme financier, aux spéculateurs, au mal-être dans l'entreprise, au mal-vivre, etc. Et ça nous, moi je pense que c'était bien une façon de clore sans clore réellement cette exposition, 30 moments de l'histoire sociale de la Loire-Atlantique, et certainement, moi je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour les 40 moments d'histoire sociale, etc. Il y a beaucoup de trous à combler. Merci.
...1981 donne un élan. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, Jacques Lang va prendre en compte la culture ouvrière. Avec deux ou trois personnes qui vont compter, en particulier un homme qui compte beaucoup, c'est Belleville. Belleville qui, lui, est un vieux militant de la cause historique, je dirais, depuis très longtemps, depuis la guerre pratiquement, et qui va faire comprendre à Jacques Lang que si la gauche arrive au pouvoir, il faut quand même qu'elle prenne en compte cette histoire et mette en place des structures de conservation des archives, etc. Alors, dans un premier temps, il y a un enthousiasme très très fort, et moi je développe avec Belleville et quelques autres, dans le Nord en particulier, l'idée qu'il faudrait quasiment des centres de documentation dans chaque département, ou au moins dans chaque région. Jacques Lang s'est un peu frotté à l'idée, et puis assez rapidement, en fait, il a conçu plutôt un centre d'archives dans le Nord, à Roubaix, et on n'a plus entendu parler, au bout d'un an ou deux, on n'a plus du tout entendu parler de l'idée que j'avais émise. En tout cas, nous, on a tenu, et donc, grâce à François Lemadec, on va faire le tour de toutes les communes, dans le cadre de cet enthousiasme, en quelque sorte. Alors, on voit Couëron, Saint-Herblain à nouveau, La Montagne, Trignac, Paimbœuf, donc j'ajoute Saint-Nazaire qu'on avait déjà vu, Orvault. Donc on voit là des communes qui disent « Ok, nous ça nous intéresse et on est d'accord pour te soutenir ». Et puis alors il y a aussi des syndicalistes, Georges Pampard, Bernard Henry, sur FO, Alexandre Hébert et ses camarades aussi vont prendre en compte. Et puis, fort de cette espèce de confiance, avec des statuts très respectueux des uns et des autres, eh bien, les choses vont marcher. Il y a des gens qui ont magnifiquement travaillé avec moi. Je pense à Daniel Sicard, qui a été ensuite le maître d'œuvre de l'Écomusée de Saint-Nazaire. Il y a René Bourigeau, évidemment, qui a développé extraordinairement tout le champ du monde paysan. Et puis il y a Jean-Pierre Lecrome, qui est toujours un chercheur de grande qualité au CNRS et qui a fait des travaux de recherche très passionnants, en particulier sur la période de Vichy, sur des choses mal connues, le système corporatif. C'est des gens qui ont été très, comment dire, productif, quoi. C'est un creuset, je crois, le sentier. Il y a des jeunes gens qui parfois sont là dans la longue durée, d'autres dans la moins longue durée, et qui produisent, quoi. C'est grâce à eux que tout ça est vivifié.
À Nantes, critique un peu générale, on a l'impression qu'on essaye de gommer, hein, on voit les transformations de l'île de Nantes, toute cette mémoire ouvrière, alors est-ce que c'est pas paradoxal tout ça ?
Non, je crois pas. Comme je le disais au départ, il y a le passé, il y a la situation présente. Le Centre d'histoire du travail doit être très attentif aux transformations des conditions de travail aujourd'hui dans le cadre du capitalisme tel qu'il est et qu'il nous force à aller. Donc je pense que le centre de documentation, c'est pas simplement des archives fossilisées sur le passé. C'est une compréhension, c'est par l'intermédiaire de débats ou de publications contemporaines, et c'est même si les syndicats le font ou les partis politiques le font de leur côté, mais du point de vue des chercheurs, du point de vue de ceux qui veulent réfléchir, de voir quelles sont les transformations en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier. Moi, je pense que le Centre de documentation d'histoire du travail doit être aussi attentif aux conditions de travail des ouvriers chinois aujourd'hui que des ouvriers français. Donc c'est un centre de documentation. Donnons au mouvement ouvrier l'ensemble de ce qui représente le travail, en quelque sorte, contre le capital, donnons-lui les moyens de se penser. Et ça, pour moi, le Centre d'histoire du travail. C'est donc très contemporain. Il ne faut pas vivre dans la nostalgie des luttes, etc. Il faut les connaître, savoir les conditions dans lesquelles elles sont déroulées et continuer d'analyser les conditions dans lesquelles nous nous trouvons pour voir comment la résistance, puisqu'on doit parler de résistance aujourd'hui, et non pas d'offensive, mais de résistance peut exister et se développer.
Ou des erreurs d'aiguillage, non ?
Ou des erreurs d'aiguillage, bien entendu. Ah oui, c'est là que c'est dans un centre comme ça que la plus grande lucidité peut exister, par la confrontation, par la discussion, par le débat, des fois c'est un petit peu rude, mais la lucidité, oui, il y a eu des erreurs, mais c'est facile de dire les erreurs. On peut dire qu'il y a des erreurs, le problème c'est de ne pas s'enfoncer dans les erreurs. Je pense que le Centre d'histoire du travail a toute son existence dans le présent et dans l'avenir.
Aussi que c'est en 82, très très vite, pour dire l'importance du CDMOT et le remue-ménage intellectuel qu'il y avait à ce moment-là, que Joël Batteux à Saint-Nazaire me demande de réfléchir. Il y avait déjà un projet qu'un professeur du lycée avait esquissé. Et il me demande de réfléchir à quelque chose à Saint-Nazaire. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de ne pas refaire exactement le CHT, puisque le CHT a sa domaine de compétence sur l'ensemble du département et au-delà, mais d'essayer de concevoir autre chose. Moi, j'étais originaire de Saint-Nazaire, donc qui était dans le cadre de la reconstruction étant achevée, d'essayer de montrer à la ville une certaine fierté de son histoire. Hein, c'était un petit peu ça, et de ses savoir-faire industriels et tout. D'où les au musée, et c'est là que Daniel Sicard, qui travaillait, qui était étudiant aussi, et a été un des premiers salariés du CDMOT, Daniel, à la suite du décès, c'est un peu compliqué parce qu'on a été au Creusot avec Joël Batteux et Gérard Mauduit pour voir comment était aménagé l'écomusée du Creusot. Et M. Évrard, qui était le directeur, nous a proposé une de ses collaboratrices, Michèle Nola, qui est décédée quelques mois plus tard, mais qui a été la première directrice de l'écomusée. Et c'est à ce moment-là que Daniel Sicard, nous l'avons recommandé pour qu'il soit le directeur de l'écomusée. Donc moi, j'ai toujours conçu les deux comme étant quelque chose de parfaitement corrélatif, hein, même si leurs domaines de compétences n'étaient pas exactement les mêmes.
Merci à Yannick Guin pour sa libre participation à cette émission réalisée dans le cadre des 30 ans du CHT. Les illustrations sonores ont été enregistrées à la Maison des Hommes et des Techniques à l'occasion du vernissage de l'exposition « Fragments d'histoire sociale, la Loire-Atlantique en lutte ».
On a bien vu dans les dernières décennies, qui étaient vos décennies, combien la façon que nous avions de voir les choses était fortement bouleversée par, les attaques du libéralisme en général et de l'ultralibéralisme. Et on voit bien les thèmes, on voit bien que le monde du travail, que le terme de classe ouvrière est en train de glisser Et on voit apparaître évidemment le terme de modernisation, mais d'exclusion. Le terme d'exclusion devient très fort dans le champ médiatique, en tout cas. Et puis, on voit bien que le travail lui-même souffre énormément. Intensification du travail, réduction des pauses, accroissement de la pénibilité.